Dimanche 1er novembre 2020. Nous avons aujourd'hui quatre textes. Le texte de l'Apocalypse de Saint Jean, chapitre 7, versets 2 à 14. Le psaume 23, la première lettre de Jean, chapitre 3, versets 1 à 3. Et Matthieu, chapitre 5, versets 1 à 12. Dans l'Apocalypse, l'auteur est Jean. Il écrit aux chrétiens d'Asie mineure. Et il leur dit, alors l'Apocalypse, ça veut dire révélation. C'est une révélation de Dieu en temps de persécution. Il y a le descriptif de choses terribles qui arrivent. Et au milieu de ces choses terribles, il y a un message d'espérance. Cherchons dans ce texte quel est le message d'espérance. Moi, Jean, j'ai vu un ange qui montait du côté où le soleil se lève avec le sceau, SCEAU, qui imprime la marque du Dieu vivant. D'une voix forte, il cria aux quatre anges qui avaient reçu le pouvoir de faire du mal à la terre et à la mer. Ne faites pas de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, avant que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Le sceau qui imprime la marque du Dieu vivant, c'est le baptême, c'est le sacrement du baptême. Plus que le baptême individuel et personnel, c'est le sacrement du baptême à part entière. Ce sacrement, il nous fait entrer dans la famille de ceux qui croient que Dieu s'est révélé en Jésus-Christ. Il nous fait entrer dans la famille de ceux qui croient que nous sommes enfants de Dieu. Je ne pense pas que nous sommes enfants de Dieu d'abord par le baptême. Mais traditionnellement, dans l'Église, c'est enseigné. Je pense que nous sommes enfants de Dieu par la conception. Le sacrement du baptême va nous faire connaître le groupe des disciples de Jésus qui vont nous expliquer ce que c'est qu'être enfant de Dieu. Qu'est-ce que c'est qu'être fils et fille de Dieu? Comment nous résistons aux événements en nous appuyant sur notre baptême? Ne faites pas de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, avant que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Et j'entendis le nombre de ceux qui étaient marqués du sceau. Ils étaient 144 000. 144 000 a une valeur symbolique. Je vous partage un livre qui s'appelle Le message de l'Apocalypse d'un bibliste, Édouard Cottenay, aux éditions Mame et Plomb. Le chiffre 144 000, dit-il, a une valeur symbolique. C'est le carré de 12, lui-même constitué de 3 multiplié par 4. Multiplié par 1000. L'énumération des 12 tribus d'Israël veut marquer la continuité entre le premier peuple de Dieu et le nouveau. L'énumération des 12 tribus d'Israël veut marquer la continuité entre le premier peuple de Dieu et le nouveau. Et ensuite, après cela, dit le texte biblique, j'ai vu. Voici une foule immense que nul ne pouvait dénombrer, une foule de toutes nations, tribus, peuples et langues. Ils se tenaient debout devant le trône et devant l'agneau, vêtus de robes blanches avec des palmes à la main. Les témoins de Jéhovah, que je connais assez bien parce que à 19 ans et demi, j'ai été un petit peu saisi par leur visite, le porte-à-porte et. Et donc voilà, je me suis laissé un petit peu entraîner chez eux, mais je me suis arrêté, sûrement grâce à leur conception de Marie dans le plan de Dieu et à celle que les chrétiens catholiques me proposaient. Donc, je suis resté catholique et je suis pas arrivé chez eux. Mais les témoins de Jéhovah disaient qu'il n'y avait que 144 000 élus. Maintenant, ils sont beaucoup plus. Donc, ils ont trouvé d'autres arguments, mais ils étaient un petit peu embêtés par rapport à leur première prédication. En fait, ce nombre de 144 000, c'est un nombre presque parfait, enfin parfait. 12 fois 1000, 3 fois 4, 12 fois 1000. Voilà. Et ensuite, il y a cette foule immense. Donc peut-être que un bibliste, mais dans ce livre, j'ai pas la réponse, mais pourrait donner la différence entre les 144 000 et la foule immense. Moi, ce que je lis, c'est que, avec ben, le pape Jean XXIII, enfin tous les papes, c'est que nous sommes tous appelés à entrer dans le royaume de Dieu. Même si nous ne sommes pas chrétiens, ce sont les chrétiens qui savent ça. Ce sont les chrétiens qui annoncent cela. Nous sommes tous appelés à accepter l'élection de Dieu sur nous. Et cette foule, elle est de partout, toute nation, toute tribu, toute peuple, tout peuple, toute langue. Il se tenait debout. C'est vraiment la station du ressuscité, la station de l'enfant de Dieu. Je serai debout, mais pas en signe d'orgueil, hein, mais en signe de droiture, d'élection. Je suis élu par Dieu. Dans le sens où il veut me révéler sa tendresse. Et moi, je vais l'annoncer à tout le monde. Ils ont un vêtement de noces, des robes blanches, des palmes à la main. Et ils s'écrient d'une voix forte, le salut appartient à notre Dieu qui siège sur le trône et à l'agneau. Ça, c'est la reconnaissance de qui est Dieu. Être sauvé, c'est déjà entrer dans ce chemin de reconnaissance de j'accepte que Dieu soit Dieu en face de moi. Tous les anges se tenaient debout autour du trône, autour des anciens et des quatre vivants. Là, ben, ceux qui étudieraient, il faudrait chercher qui sont les anciens, qu'est-ce que ça veut dire, qui sont les quatre vivants. Pour l'instant, moi, je ne sais pas. Et ça ne me gêne pas par rapport à, et c'est ce que j'essaie de vous apprendre, par rapport à la lecture du livre, par rapport à la lecture de la Bible. Il y a juste des choses que je ne comprends pas, et il y en a d'autres que je comprends. Et se jetant devant le trône, donc tous les anges, face contre terre, ils se prosternèrent devant Dieu. Et ils disaient, Amen, louange, gloire, sagesse et action de grâce, honneur, puissance et force à notre Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Voilà ce que nous allons faire au ciel. Voilà ce que nous allons faire devant Dieu. Nous serons dans la louange, nous serons dans la reconnaissance de sa gloire, nous serons dans la connaissance de la sagesse, nous serons dans des actions de grâce. Nous rendrons hommage, nous rendrons les honneurs à Dieu, aux autres, à nous-mêmes, à la nature. Il y a une puissance à vivre cela. La puissance de la foi, la puissance de la charité, la puissance de l'espérance. Puissance et force à notre Dieu. Et je vais chercher quelle est cette force. C'est pas la force que moi j'imagine. C'est la force que Jésus m'a révélée. Parfois c'est la même chose, mais pas par... mais sinon, ça s'appelle la conversion. C'est pas la même chose. Je vais chercher quelle est la force que Dieu en Jésus me révèle. Il va aller voir les exclus, il va s'approcher des lépreux, il va guérir même quand la loi l'interdit, c'est-à-dire le jour du sabbat. Et je vais entrer dans cette dynamique parce que je suis disciple de Jésus, fidèle de Dieu le Père et de l'Esprit Saint, envoyé par l'Esprit Saint. fils de l'Église, fille de l'Église. L'un des anciens prit alors la parole et me dit, donc à moi Jean, ces gens vêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où viennent-ils? Voilà des questions que nous avons à poser à Dieu, à l'Église. Et nous avons Internet. Peut-être pas tout le monde, mais nous avons Internet. Nous pouvons écrire à quelqu'un. Nous pouvons écrire à l'évêque par mail. Vous pouvez nous écrire au Père Hyacinthe, à moi. On peut chercher la réponse quelque part. Frère Roger disait, je crois que c'est lui qui disait cela, il disait, quand j'ai une question, je sais que une des personnes parmi les 7 milliards et demi de personnes dans le monde a la réponse à ma question. Je dois rencontrer cette personne, je dois la trouver, je dois la chercher, je dois la trouver. Lire la Bible, ce n'est pas tout savoir. C'est se laisser aimer par Dieu. Et quand je ne comprends pas quelque chose, je vais chercher la réponse ailleurs dans la Bible, dans la vie de l'Église, par d'autres textes et d'autres auteurs. Des auteurs qui vont m'expliquer, en fonction de leurs études, ce que dit la Bible dans ce que nous savons aujourd'hui, en 2020. Je lui répondis, Monseigneur, toi tu le sais. Donc déjà, il appelle Monseigneur, et dans mon texte, il y a un S minuscule. Bon, je ne sais pas trop. Mais Monseigneur. Et il me dit, donc en fait, l'ancien pose une question, c'est un piège bienveillant. Jean lui répond, bah toi tu le sais, et l'ancien va donner la réponse. Ceux-là viennent de la grande épreuve. Ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchies par le sang de l'agneau. Je ne crois pas que l'épreuve soit uniquement l'hôpital, la maladie, la souffrance. Je crois que l'épreuve, ils viennent de la grande épreuve. C'est l'épreuve de l'amour de Dieu dans ma vie. Est-ce que j'accepte de chercher cet amour? De me laisser approcher par Dieu qui m'aime, est-ce que j'accepte d'être pris dans ses bras, de voir ma vie en entier et d'accepter la purification de ma vie par la présence amoureuse, bienveillante, respectueuse, claire, vraie, juste de Dieu? Ils ont lavé leurs robes, ils les ont blanchies par le sang de l'agneau. Cette phrase, pour moi, fait partie du grand mystère. C'est-à-dire quelque chose que je ne connais pas la réponse en entier, mais je vais la chercher, la réponse, tout au long de ma vie. Qu'est-ce que ça veut dire être blanchi par le sang de l'agneau? Qu'est-ce que ça veut dire quand on dit au baptême, vous entrez dans la mort du Christ? Pour moi, le baptême, c'est la vie. Eh bien non, mais c'est pas forcément, est-ce que c'est la mort physique? Je ne suis pas sûr. Peut-être que oui, je ne sais pas, mais moi, ce que j'entends pour l'instant, c'est j'entre dans la mort du Christ, c'est-à-dire... J'entre dans cette parole du Christ qui veut être fidèle à la parole du Père et qui en soi va vaincre la mort. Vous êtes ensevelis avec le Christ, oui. Il y a une descente, par le baptême, il y a une descente avec le Christ pour vaincre la mort. Et nous allons mourir. Et en même temps, dans cette mort, il y aura une victoire. La victoire sur la mort. C'est ce que nous célébrons aujourd'hui, le 1er novembre. Je poursuis au niveau de la sainteté. C'est la fête des saints. C'est la fête de la sainteté de Dieu. C'est la fête de la sainteté de Dieu. Et là, je vous partage cette exhortation apostolique, c'est-à-dire c'est une lettre, hein, une lettre du pape, sur l'appel à la sainteté dans le monde actuel. Gaudete et exultate. Soyez dans la joie et l'allégresse. L'appel à la sainteté dans le monde actuel. C'est un petit livre qui coûte 3,50 €. Je peux financer si ça vous aide. Au paragraphe 19, et tout au long de ce livre, de cette lettre, le pape François éclaire sa vision, nous donne sa vision de la sainteté. Bien sûr, comme il parle à tout le monde et que c'est une exhortation apostolique, il doit le faire en union avec les autres papes avant lui, avec tout l'enseignement de l'Église. Et donc quand je lis cette lettre, je me dis que j'approche la vérité sur Dieu, sur moi, sur les autres. Pour un chrétien, dit-il, il n'est pas possible de penser à sa propre mission sur terre sans la concevoir comme un chemin de sainteté. Est-ce que vous avez conscience que vous êtes un saint ou une sainte? Alors bien sûr, comme on nous a expliqué, en tout cas moi, on m'a expliqué qu'un saint c'est quelqu'un de parfait, et bien que je ne me considère pas comme parfait, donc je me dis je ne serai jamais un saint ou une sainte. C'est faux. Un saint, c'est pas quelqu'un de parfait. C'est quelqu'un qui continuellement marche sur le chemin de Jésus-Christ, en lien avec la Bible, la prière, tous les rites de l'Église catholique, tous les rites de l'Église enfin, chrétienne, mais pour nous c'est catholique. Je vous livre une de mes pensées qui pour moi est très forte, c'est-à-dire elle est constante. Je n'engage pas l'Église en vous disant ça, je partage juste une pensée. Ma question c'est, est-ce que ceux qui ont été canonisés par l'Église sont au ciel dès leur mort? J'ai beaucoup de mal à le croire, et je ne le pense pas. Heureusement que nous n'avons pas encore canonisé, que l'Église ne s'est pas précipitée sur ceux qu'on a déclarés saints dans les derniers mois dans nos derniers mois là. Parce que vu ce qu'on a appris pour certains, et qui est juste, eh bien, ils ne sont pas saints dans le sens que l'Église, dans la définition que l'Église nous propose. Et pour tous les autres, je pense à Mère Teresa, je pense qu'il y avait quand même, qu'il y avait beaucoup de caractère pour faire tout ce qu'il a fait. Et puis, quand je pense au pape Jean-Paul II, on nous a dit qu'il était marqué par la colère. Monseigneur Lustiger, bon, il est pas canonisé, mais c'est un évêque important pour l'Église de France, cet homme-là. Thérèse de Lisieux. Catherine de Sienne, qui était anorexique. Thérèse de Lisieux qui a été tentée par le suicide. Elle a été tentée, mais comment elle a résisté? On ne sait pas comment ces gens résistent au mal qu'il leur est proposé dans leur vie. On sait juste qu'elle disait à l'infirmerie, enlevez de moi, enfin, ne me mettez pas tous ces ciseaux à côté de moi, car sur une pensée forte, je pourrais en prendre un et me tuer. Et on a laissé cette phrase, on a enlevé cette phrase parce que c'était trop compliqué, c'est-à-dire, évidemment, comme nous, on a une conception de la sainteté comme quelqu'un de parfait, ça correspond pas. Et là, avec le pape François, on a une autre conception qui se rapproche beaucoup plus de, en tout cas pour moi, de ma pensée. Je suis sûr que les saints canonisés sont des saints. Je ne suis pas sûr qu'ils soient au ciel dès leur mort. Il y a une purification. Je ne suis pas sûr que la purification soit complète au moment de la mort. Enfin, c'est une question que je pose à l'Église. Dans la première lettre aux Thessaloniciens, Paul dit « Voici quelle est la volonté de Dieu, c'est votre sanctification. Chaque saint est une mission. Il est un projet du Père pour refléter et incarner à un moment déterminé de l'histoire un aspect de l'Évangile. » Le saint, la sainte, c'est une mission. C'est un projet du Père. Quel est votre projet du Père? Quel est le projet du Père sur vous? Quelle est la phrase, l'aspect de l'évangile ou de la Bible qui marque votre sainteté? Est-ce que c'est Tobie qui enterre les morts alors que c'est interdit par son gouvernement? Est-ce que c'est la vie cachée de Jésus, comme pour Charles de Foucault? Est-ce que c'est le fait de partir à pied deux par deux, comme pour Saint François d'Assise, et d'épouser Dame Pauvreté? Quel est le projet du Père que vous reflétez dans votre vie? Quel est le projet du Père que vous incarnez en 2020, à ce moment déterminé de l'histoire? Quel est cet aspect de l'évangile? Moi, je trouve très important, très judicieux d'avoir eu cette idée, qui est une idée tout à fait classique dans l'Église, hein, mais qui renouvelle la sainteté. La sainteté, ce n'est pas une question de perfection, c'est une question de projet, c'est une question de réalisation de pages bibliques. La sainteté, dit-il, c'est vivre les mystères de la vie du Christ en union avec lui. Elle consiste à s'associer à la mort et à la résurrection du Seigneur d'une manière unique et personnelle. Elle consiste à mourir et à ressusciter constamment avec lui, mais cela peut impliquer également de reproduire dans l'existence personnelle divers aspects de la vie terrestre de Jésus. Sa vie cachée, sa vie communautaire, sa proximité avec les derniers, sa pauvreté et d'autres manifestations du don de lui-même par amour. Quelle est la page d'évangile qui façonne votre vie? Est-ce que c'est la proximité avec les derniers? Est-ce que c'est la pauvreté de Jésus? Est-ce que c'est le fait qu'il marche à travers les villages? Qu'est-ce que c'est? Comment est-ce que nous faisons des prières de contemplation en lisant la Bible pour nous dire « Esprit Saint, donne-moi de connaître la page d'évangile qui caractérise ma vie. » Est-ce que c'est Zachée, la femme adultère, Marie-Madeleine, Paul, Pierre, Judas? Quelle est cette page d'évangile qui fait que j'ai envie de vivre cela comme ça ou au contraire d'arrêter de le vivre? Toute la vie de Jésus est signe de son mystère. Toute la vie du Christ est révélation du Père. Chaque saint est un message que l'Esprit Saint puise dans la richesse de Jésus-Christ et offre à son peuple. Un saint, c'est un message. Une sainte, c'est un message. Vous êtes des messagers. Votre vie est un message. La mienne aussi. Et puis il y a ce chapitre 22, paragraphe 22. Pour reconnaître quelle est cette parole que le Seigneur veut dire à travers un saint, il ne faut pas s'arrêter aux détails, car là aussi il peut y avoir des erreurs et des chutes. Mais on n'a jamais fait de bande dessinée avec les erreurs et les chutes des saints. Ça serait bien qu'il y ait quelqu'un qui se mette à dessiner toute la vie du saint, et puis avec ses erreurs et ses chutes, avec ses désobéissances, avec ses reculs. Ça serait tellement humain. Ça serait tellement humain. Avec une amie, on aimerait vraiment qu'il y ait des bandes dessinées comme ça, plus humaines, moins dans le ciel avec les anges. Il y a des erreurs et des chutes. Tout ce que dit un saint n'est pas forcément fidèle à l'Évangile. Ah bon? Moi, on m'avait expliqué que oui. Tout ce qu'il fait n'est pas nécessairement authentique et parfait. Mais qui dit ça? Le pape François. Tout ce qu'il fait n'est pas nécessairement authentique et parfait. Pareil pour le pape. Tout ce qu'il dit n'est pas authentique et parfait. Tout ce qu'il dit n'est pas forcément fidèle à l'Évangile. Mais en fait, on va quand même le vérifier. Est-ce que Jésus serait d'accord avec la phrase que tu dis? Est-ce que Jésus pourrait la dire? Est-ce que Jésus pourrait faire ce que tu fais au nom du Christ, dans l'Église, dans le monde? Ce qu'il faut considérer, c'est l'ensemble de sa vie, dit le pape, tout son cheminement de sanctification, cette figure qui reflète quelque chose de Jésus-Christ et qui se révèle quand on parvient à percevoir le sens de la totalité de sa personne. Le but, c'est de regarder la totalité de la personne. Comment elle s'est relevée? Comment elle a accepté de continuer à vivre avec ses erreurs et ses chutes, même avec ses péchés? Bien sûr, il y a un combat. Mais le combat n'est pas forcément allié avec la victoire. La caractéristique d'un saint ou d'une sainte, c'est que c'est un combattant perpétuel, tout le temps. Dans le royaume de Dieu, je pense qu'il n'y a plus de combat. Mais jusqu'à ce que j'accepte d'être devant le visage de Dieu, il y a du combat. Cherchez la figure de sainteté que votre vie manifeste. Cherchez le saint que vous êtes. Cherchez la sainte que vous êtes. Remerciez Dieu de ce que vous êtes et remerciez Dieu de ce qu'il est à l'intérieur de vous, pour vous et par vous. Amen.